J'avais prévu de faire un tour de table les uns après les autres. Donc on va faire ce tour de table en commençant par nos amis de la bande dessinée et de Ginette, Kolinka. Et puis quand arriveront nos autres invités, eh bien on s'intéressera à eux. Donc ce livre qui est paru aux éditions Albin Michel, qui s'appelle Adieu Birkenau, vous allez nous expliquer pourquoi ce titre, hein, d'ailleurs, et Jean-David Morvan et Victor Maté, vous êtes les co-scénaristes de cette BD, bonjour à vous, merci d'être avec
bonjour.
Nous.
Bonjour.
Vous avez alors les dessinateurs, je vais les citer quand même, parce que c'est important, Efa et Sesh, qu'on prononce comme ça ?
Sesh, ouais.
Sesh, on dit Sesh. Parce que le dessin est très important.
Et Roger à la couleur.
Et Roger à la couleur, oui, parce que le dessin est très important. Alors c'est Ginette Kolinka, qui est l'une des dernières rescapées d'Auschwitz, Birkenau, qui est le camp numéro 2 d'Auschwitz. Ah, voilà nos autres invités qui arrivent. Donc, je vais quand même commencer par... ça, c'est Emmanuel de Varesquiel.
Bonjour.
Bonjour. Et Jérôme Cordelier. Alors, je vais quand même présenter les autres livres, du coup. Merci de nous avoir rejoints. Non, je vous en prie. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a des gens sur les stands. Et pour s'arracher aux lecteurs qui vous adorent et qui veulent des signatures sans arrêt. Donc, l'autre livre dont on parlera après, juste après celui-là, ça sera Après la nuit, puisque c'est après la guerre et comment on reconstruit l'Europe. Et ensuite, nous évoquerons la Dubarry avec Emmanuel de Varesquiel. Merci d'être avec nous. Donc, je commence par cette BD. Jean-David Morvan et Victor Maté, comment vous l'avez rencontré, Ginette Kolinka?
C'est moi qui l'ai rencontré, en fait, on va dire un peu par hasard, il y a quelques années, en 2017. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a une journaliste qui m'a dit, en reprenant une phrase, je crois, d'Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, visiblement, j'avais rendez-vous avec elle, mais sans le savoir. Et je l'ai rencontré au Mémorial de la Shoah à Paris, un peu par hasard. Et elle vendait à l'époque un livre qui avait été écrit sur elle par un journaliste qui s'appelle Philippe Dana. Et voilà, moi j'étais en bullet parce qu'il y avait une vente de bouquins là-bas. Et elle m'a arrêté en me disant ne cherchez plus, le meilleur livre est là. Et si je vous le dédicace.
Elle a beaucoup d'humour. Hein.
Elle a beaucoup d'humour, énormément d'humour.
Et une énergie incroyable parce qu'elle avait quoi à l'époque, 90 ans?
Elle avait déjà 92 ans.
92.
92
oui.
ans. Et voilà, elle me dit si vous me l'achetez, que je vous le dédicace, il vaudra encore plus de valeur. Donc vraiment, c'est une bonne offre que je vous fais. Donc forcément, je l'ai acheté. Je l'ai revu quelques mois plus tard, complètement par hasard, sur un bateau en revenant de Belle-Île en mer. Et voilà, et on s'est lié un peu d'amitié comme ça. Et pour vous dire l'énergie qu'elle a, la toute première fois qu'elle m'a donné rendez-vous à Paris, elle avait oublié le rendez-vous parce qu'elle a un agenda extrêmement chargé. Et elle s'en est excusée, mais elle m'a dit, si vous voulez, on peut rattraper le coup. Venez me chercher à mon cours de gym, on ira boire une bière. Donc voilà, c'était un vendredi soir comme ça à Paris. Et voilà.
92 ans.
Voilà, 92 ans. Et voilà, je lui ai proposé de payer le taxi à minuit pour rentrer. Elle m'a dit, il y a encore des métros. Et voilà, ça vous donne un peu le personnage. Et donc, la rencontre s'est faite comme ça. S'en est suivi un reportage sur France Inter.
Vous avez fait une série.
Dans l'émission Interception. Et puis cette BD aujourd'hui.
Mais alors, du coup, Jean-David, comment elle est née cette BD? Parce que je crois qu'elle ne voulait pas en entendre parler au début. Hein.
Ben non, je fais une autre BD avec une dame qui s'appelle Madeleine Riffaut, qui a 6 mois de plus qu'elle. Et toutes les deux, elles n'ont pas cette habitude de la bande dessinée. Pour elles, c'est des histoires rigolotes. Donc elles se demandaient comment on allait pouvoir raconter une telle histoire en bande dessinée. Pour elles, c'était impossible. Et j'espère, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a changé d'avis depuis.
Vous avez utilisé une technique donc de marier l'époque sombre de Dachau, enfin de la guerre, cette tragédie.
De Birkenau.
Et de Birkenau, et de sa vie actuelle, où elle est au contraire très lumineuse. Quoi.
Mais en fait, c'était presque, pour moi, l'idée de base de la chose. Parce que dans les livres que j'ai lus sur elle, qui sont très bien, mais je trouvais qu'on ne voyait pas le personnage et son histoire. On voyait son histoire particulièrement, ou le personnage, mais jamais les deux en même temps. Et ça m'intéressait vachement dans le scénario d'avoir ça. Et la raison pour laquelle on a mélangé les deux périodes les plus importantes de l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui et 1944, c'est parce que quand on est allé avec elle à Birkenau, alors que c'était en 2020, on ne savait pas du tout que ça allait être son dernier voyage. Elle ne le savait pas non plus, mais à la fin du voyage, elle a dit « Je ne reviendrai pas, c'est trop fatigant, donc c'est mon dernier voyage ». Et pour
parce
nous,
qu'elle voulait témoigner à ce moment-là, elle témoignait avec des élèves.
Oui, ça faisait 20 ans qu'elle témoignait avec des élèves. Elle y allait plein de fois à Birkenau. Oui. Et en fait, elle nous a dit
«
C'est la fin ». Exactement.
Le titre.
Donc la structure s'est faite toute seule.
Et dans sa vie, Victoire, comment elle a relié ces deux périodes qui sont à la fois, je disais, le côté sombre et tragique et le côté lumineux ensuite? Comment ça s'est passé, le déclic, pour qu'elle se réapproprie ce passé douloureux et qu'elle témoigne précisément pendant plus de 20 ans?
Elle n'a rien dit en fait pendant 50 ans, ni à sa famille, ni à ses amis, à personne. Il s'avère qu'en 1996, un petit peu après la sortie de la liste de Schindler, je crois que c'est en 1994, la fondation Spielberg qui avait été créée, en fait, cherchait à faire témoigner les rescapés un peu partout dans le monde. Et coup, Spielberg avait chargé des réalisateurs dans tous les pays de trouver ces anciens déportés et de les faire parler. Et donc, il y a un monsieur qui s'est adressé à Jeanette Kolinka qui lui a dit « Voilà, est-ce que vous voudriez parler ?» Elle a dit « Non seulement je ne veux pas parler, mais en plus, j'ai rien à dire, je me souviens de rien. » Il a insisté une fois, deux fois, jusqu'à 10 fois, comme ça. Elle a dit « Si vous avez du temps à perdre, venez chez moi, mais franchement, ça ne sert à rien. » Et finalement, il a lancé l'enregistrement et elle a parlé pendant 5 heures sans s'arrêter. Donc, elle a... tout est ressorti d'un coup comme ça. Et quelques années plus tard, elle faisait déjà partie d'une association de déportés, mais où elle dit bah, on avait tous été déportés, donc on n'avait pas besoin de parler de déportation. Finalement, chacun connaissait l'histoire. Donc finalement, c'était plus une sorte d'amicale voilà, où ils se retrouvaient pour parler de leur famille, manger des gâteaux, boire du thé.
Et un jour, aller faire du sport et boire une bière.
Voilà. et un jour, le président de son association lui dit écoute, il manque quelqu'un là, pour aller à Birkenau accompagner des élèves. Est-ce que tu veux venir? Elle dit non, je ne veux pas venir, je ne veux pas y retourner. Je ne tiendrai pas le coup. Et il se trouve que finalement, elle a accepté parce que le président lui a dit bah, c'est pour rendre service. Elle a dit bon, si c'est pour rendre service, alors j'y vais. Et en fait, elle a plutôt apprécié, comme elle dit elle-même, faire ça. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie utile. Là-bas, elle n'a pas été traumatisée par ce qu'elle a vu parce que pour elle, ce n'était plus le Birkenau des déportés. Elle a dit il y avait de l'herbe verte. Ça, j'en ai pas vu quand j'étais là-bas. Ils ont refait les bâtiments. C'était pas comme j'ai vu. Il y avait du ciel
forcément,
bleu. Il
n'y
avait pas de ciel quand j'y étais. C'était de la fumée. Tout était gris.
Je vous vois opiner du chef. Enfin, réagir.
Je sais pas comment.
Vous qui êtes historien,
elle a fait pour
Emmanuel Bascarriel.
C'est insensé.
Oui. Il y a quelque chose qu'elle disait. Elle disait, je veux pas y retourner à Birkenau parce que de toute façon, quand je ferme les yeux, j'y suis. Voilà.
Dans votre BD, la déportation, parce que vous évoquiez justement le fait qu'elle est tue à tout le monde, même sa famille, hein, la déportation commence dans votre scénario par le numéro 78599 qui est gravé sur son avant-bras, hein, évidemment, et qui intriguait son petit garçon. Vous le connaissez peut-être, son petit garçon, enfin maintenant qu'il est grand, hein, c'est Richard Kolinka, le batteur du groupe Téléphone. Téléphone, ça vous parle, hein, donc, et lui, il se disait, mais qu'est-ce que c'est ce numéro que porte ma maman, etc. Que dit Ginette sur ce numéro aujourd'hui?
Elle dit des choses assez incroyables sur ce numéro parce que c'est même parfois dérangeant pour les gens qui l'écoutent parce qu'elle dit « Ah ben j'ai un beau numéro, j'ai de la chance, il a vraiment été bien fait, j'ai des camarades qui elles, ont eu un numéro mal fait, qui est vraiment moche, etc. »
Donc des fois oui, elle dit « Merci elle, madame. » Elle dit « Il est bien gravé. »
Voilà, elle dit « Il est bien fait. » Elle dit « Franchement, merci madame, etc. » Après, la vérité, c'est que ça a été aussi un déclencheur de ses témoignages, même si elle ne le raconte pas forcément tout le temps. Mais après la guerre, elle a travaillé sur les marchés, en fait. Elle a été commerçante sur les marchés pendant des années. Et un jour, sur un marché, une dame voit son numéro et lui dit « Ah, vous avez peur d'oublier votre numéro de téléphone? Vous l'avez mis sur votre bras ?» Et voilà. Et là, elle se dit « C'est pas possible, il y a des gens qui pensent, qui connaissent pas cette histoire. » Et ça a été un déclencheur.
Et en même temps, Jean-David, au fil du récit que vous avez construit, on voit une insouciance chez elle au moment où les événements se passent. Elle prend tout cela à la légère. Pardonnez-moi, mais presque ce que j'ai ressenti en lisant votre BD, hein, presque avec fierté de porter l'étoile jaune à un moment.
C'est étrange.
C'est bizarre. Quoi.
Et c'est pour ça que c'était important de le dire, parce que ce n'est pas un témoignage commun. Et,
oui.
Et je pense que d'ailleurs tous les survivants ont un témoignage unique, et c'est important d'écouter aussi ce qu'ils ont à dire au-delà de l'histoire globale, on va dire, de la déportation, mais que chacun a son caractère. Et ça, c'était bien. Et c'est vrai que même pour nous, écrire, c'était bizarre, mais il faut lui rendre cette
Elle a insisté sur ce qu'elle voulait faire passer comme message ou pas, justement, ces choses-là, ou c'est vous qui avez écrit en fonction de ce qu'elle vous racontait?
Oui, on écrit exactement ce qu'elle nous a raconté. En fait, on n'a pas voulu utiliser justement les livres d'avant. C'est pour ça qu'on est allé à Birkenau avec elle, qu'on a fait des conférences devant des profs, des élèves avec elle pour tirer exactement le matériel dont on avait besoin pour faire le livre. À Birkenau, on n'a pas filmé, mais on l'a enregistré avec nos téléphones, donc on a repris exactement les phrases qu'elle disait. C'était très important.
Je reviens à cette étoile. Victoire, vous l'avez revue évidemment depuis. Et depuis les événements récents, là, avec cette étoile qui réapparaît malheureusement et tragiquement dans certains lieux, elle a réagi à ça ou pas? Vous lui en avez parlé?
Elle a réagi, je n'en ai pas parlé directement. J'ai vu qu'elle avait réagi un peu. Elle a été interrogée par quelques journalistes. Et voilà, c'est vrai qu'elle dit qu'elle ne pensait pas. Elle, son message, c'est de dire, voilà, en gros, elle lutte contre la haine. Parce qu'elle continue à témoigner hein, quotidiennement. Elle a 98 ans, 99 bientôt en février. Et tous les jours, elle a vraiment, ce que je vous disais, un agenda ultra chargé. Elle va dans toutes les villes de France. Elle est le lundi, je ne sais pas, à Marseille, le mardi à Strasbourg. Enfin, vraiment, elle sillonne toute la France.
Elle témoigne pour que ça ne se reproduise plus. Et quand exactement, elle voit ça, terrible pour elle. Quoi.
Quand elle dit ça, déjà, avant ça, elle disait, je ne sais pas si ce que je fais sert à quelque chose, mais voilà, elle le fait quand même de manière incroyable. Et là, elle a eu ce truc de dire... Je ne pensais pas qu'un jour je reverrais ça. Et elle dit, moi-même qui n'ai jamais peur ni rien, je commence à douter un peu.
À être inquiète ouais. de la situation. Son plus grand malheur aussi, et on le ressent très bien dans votre BD, c'est d'avoir conseillé à son père et à son petit frère de monter dans un faux camion de la Croix-Rouge en espérant que voilà, la Croix-Rouge, et on sait très bien ce que ces faux camions étaient, hein, c'était évoqué des historiens, c'est des camions qui étaient directement au four crématoire. Quoi. Donc ça, elle a vécu avec cette culpabilité.
Oui, ça fait partie d'ailleurs dramatique. De son insouciance et elle s'en veut, et je pense que du coup elle est revenue dessus aujourd'hui, elle a compris, mais quand ils sont descendus, les Allemands ont dit ceux qui sont fatigués montent sur les camions, et elle a dit bah oui, vous êtes fatigués, allez-y, c'est normal quoi. Et depuis, elle vit avec ça, ça n'aurait rien changé, ils y seraient allés quand même. Oui. Mais le fait de l'avoir
enfants,
dit,
les enfants et les personnes,
les enfants âgées, et les personnes âgées, moins de 15 ans, plus de 45 ans, voilà. Donc,
Alors la BD, c'est formidable parce qu'on voit à la fois ce qu'elle vit aujourd'hui avec cet humour qu'elle a quand elle est avec vous à Birkenau, etc. Vous êtes dans la BD d'ailleurs, Victor.
C'est vrai.
On vous voit. Et puis elle raconte tout le cheminement depuis le passage en zone libre, l'arrestation à Avignon, le transfert à Marseille, à Drancy et l'envoi vers les camps. Qu'est-ce qui lui a permis de tenir dans tout ce parcours, dont s'étonnait d'ailleurs Emmanuel là.
Peut-être justement cette insouciance, parce qu'elle le dit elle-même et on l'a retranscrit plusieurs fois dans la bande dessinée, où elle dit, on l'a fait parler, elle dit voilà, qu'est-ce que j'étais naïve. Des fois elle dit voilà, ma pauvre Ginette, t'as pas vu ces choses-là. Elle a traversé tout ça, finalement, avec une sorte d'insouciance ou de naïveté. Quand elle est à Drancy, elle se dit encore qu'elle va aller dans un camp de travail et que c'est pas trop grave, alors qu'elle voit bien, elle le dit maintenant, elle dit il y avait autour de moi des femmes enceintes, des enfants, des bébés, des gens très âgés. Bien sûr que c'était impossible qu'ils aillent dans un camp de travail. Donc voilà, aujourd'hui, elle réalise, mais sur le moment, il n'y a pas vraiment de panique chez elle. Je pense qu'elle prend vraiment la conscience de ce qui se passe quand elle arrive à Birkenau, qu'on les fait se déshabiller, qu'on les passe sous les douches, qu'on les rase, qu'on leur fait le tatouage, etc. Et qu'on leur dit, vous voyez la fumée, ça c'est ton père et ton frère, ils sont là. Quoi.
Et à ce moment-là, elle l'écrit, enfin sous votre plume en tout cas, ne plus réfléchir, c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie.
Je pense qu'elle s'est totalement déconnectée. Elle ne se souvient pas des gens avec qui elle était. Pourtant, elle dit j'ai dormi avec eux.
Simone Veil, elle se souvient quand
même. De Simone, parce qu'elle lui a offert une robe qui lui a presque sauvé la vie. Mais sinon, les gens avec qui elle dormait sur la Koya, elle dit on était six, je ne me souviens de personne. Et donc, ça nous a permis aussi une métaphore graphique, ce qui est la force, d'une certaine manière, de la bande dessinée, de traiter tous les personnages un peu comme de la fumée.
Voilà. Mais alors, j'allais vous poser la question, parce que c'est vraiment un fond permanent, en tout cas dans la partie historique des années 40-44, le camp, il y a ces ombres qui apparaissent, qui vous permettent à vous de raconter l'indicible. Quoi.
Quelque part, ça préfigure leur futur, et puis aussi ça dit que Ginette les a totalement oubliés, et qu'ils sont que des ombres. C'était gênant, en fait, une fois qu'elle a eu dit ça, de se dire qu'on allait dessiner des visages à tous ces gens, je trouvais que ça gênant. Et donc on a cherché, on a trouvé cette option qui me semble bien réalisée par nos dessinateurs.
L'humour et le sport ont été, à l'époque, déjà, hein, sans doute, et aujourd'hui encore, ses plus grands alliés.
Ouais, sans doute.
Parmi ses alliés, parce que
ouais,
la situation est tellement difficile.
Ouais, elle faisait du sport avant la guerre. Elle faisait du handball, notamment, on le voit dans la BD. Et puis oui, cet humour, je pense que ça, elle l'a toujours eu. Enfin, elle le dit d'ailleurs que voilà, c'était un peu... elle avait fait partie d'une famille très nombreuse. Elle avait beaucoup de sœurs et puis un frère plus petit. Et puis je pense qu'elle avait cette place un peu particulière de rigolote de la famille. Et voilà, et elle a toujours effectivement cet humour qui est indescriptible. Et...
Si on fait la boucle avec son numéro, elle a demandé à son syndicat de copropriété de mettre le code d'entrée de l'immeuble avec son numéro, parce qu'elle dit je l'ai toujours sur moi, donc c'est facile. Voilà. Donc,
incroyable. À vous deux, qu'est-ce qu'elle vous a transmis, vous qui l'avez côtoyé longuement, l'accompagné à Birkenau?
Une force incroyable d'une rencontre exceptionnelle. Enfin, moi, je fais déjà une BD avec une résistante, donc quand la sœur de Victor m'a demandé si je voulais travailler sur cette BD, j'ai réfléchi 3 secondes en me disant est-ce qu'on va pas dire que j'ai trouvé un système et que je fais toujours la même chose. Et je me suis dit, à côté de l'incroyable expérience de rencontrer Ginette, d'aller Birkenau avec elle, etc., c'est rien, on pourra bien me dire tout ce qu'on voudra. C'est ça le plus important, c'est d'avoir rencontré des gens qui ont résisté à ça et qui résistent toujours. C'est fabuleux.
Ouais, c'est ça. Moi, au-delà de son histoire, c'est vraiment une rencontre extrêmement marquante. C'est devenu vraiment une amie, Ginette Colinca, une amie vraiment très proche. Et comme si c'était une amie de mon âge, elle le dit elle-même. Quoi. Elle dit, voilà, quand je suis avec des gens de 20 ans, j'ai 20 ans. Quand je suis avec des gens de 40, j'ai 40, 60. Quand je suis avec des gens de 90, je m'emmerde.
Elle est fière de la BD ?
Elle est contente de la BD, ouais, ouais, tout à fait. Bon,
elle n'a pas de regret, quoi.
Non, elle n'a pas de regret du tout. Elle trouve qu'on a bien bossé. Et voilà, elle a fait des réflexions parfois drôles et parfois émouvantes sur certains dessins. Elle disait, voilà, là, vous m'avez fait des trop gros bras, ça va pas. Et là, elle disait, ah, je revois exactement mon père, ça me fait pleurer, etc.
Et puis, quand on était au mémorial, il y a sa meilleure amie qui est toujours avec elle, qui nous a dit, quand même, hein, vous lui avez fait des gros lolos. Hein. T'as jamais eu des gros lolos comme ça, toi, Ginette? Donc voilà, ça dit un peu l'ambiance générale dans laquelle elle vit et qui est fabuleuse, en fait.
Bon, une BD formidable que je vous recommande, bien évidemment. Un travail d'équipe aussi, on l'a cité, les dessinateurs, toute la mise en place, etc. Édition Albin Michel et France Info. On va tourner la page de la guerre et continuer avec l'après-guerre et avec vous, Jérôme Cordelier, après la guerre et les tragédies. Alors, vous avez écrit Après la nuit, hein, on vient de... Bon, je vais prendre celui-là. Je vous en prends l'autre. Voilà, ça marche. On vient de parler de la nuit, et après la nuit, voilà, là, il faut reconstruire, et vous êtes intéressé, vous, et c'est le sous-titre, à ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, et vous assurez d'ailleurs que ces chrétiens ont compté largement plus que d'autres.
Je le pense, oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé... Vous savez, bon, moi, je suis d'origine bréviste. Hein, mes grands-parents vivaient boulevard Édouard Lachaud. On revenait régulièrement les voir. Donc
nul
on...
n'est parfait, je suis voilà. Bréviste aussi. Hein.
je sais bien. Et donc, j'ai baigné un petit peu dans l'ambiance Edmond Michelet, si on peut dire. Ma famille était liée à la famille des Michelet. J'ai souvent entendu parler d'Edmond Michelet. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, ben, on a quand même une image de la guerre, ou notamment de l'engagement des chrétiens pendant la guerre, qui est l'épiscopat a pactisé avec Vichy, donc ils ont tous collaboré.
Vous dites d'ailleurs dans votre bouquin, c'est une responsabilité collective, hein, voilà, parce qu'on a désigné certains prélats, on a fait un peu la chasse aux sorcières religieuses, quand, oui. Si je peux me permettre. Hein,
mais... Oui, ça c'est après, mais c'est juste pour vous expliquer un peu la genèse. Hein. C'est-à-dire que en fait, le précédent livre que j'ai fait, c'était sur la résistance chrétienne, parce que je m'apercevais qu'on parlait beaucoup des compromissions de l'épiscopat avec Vichy, ce qui est une réalité, hein, que je n'ai pas nié d'ailleurs dans le précédent bouquin. J'ai fait une grande enquête là-dessus. C'est une réalité, évidemment jusqu'en 42, mais aussi après 42. Mais cette réalité a un peu caché la face sombre et il y a la face lumineuse. Un peu caché la face lumineuse qui est l'engagement des prêtres religieux laïcs qui, sur le terrain, ont énormément œuvré pour sauver des juifs et pour s'engager dans la résistance. Et maintenant, je crains pas de le dire, mais je parle sous le contrôle de l'université et donc d'un grand historien qui est Emmanuel de Barresquel, mais les chrétiens ont été les premiers à s'engager contre les nazis, il faut le dire. C'est pas suffisamment su. Donc voilà, Edmond Michelet, 17 juin 1940, il distribue dans les boîtes aux lettres de Brive.
Je me rappelle, c'est au lendemain de l'appel, ou même la veille.
Voilà,
la veille de l'appel du 18 juin, c'est ça, oui.
Donc ça, c'était le précédent livre. Et puis en fait, quand ce livre a été publié, j'ai reçu énormément de messages dans des conférences de gens qui me disaient « Ah, mais vous avez oublié telle personne, vous avez oublié telle personne. » Et donc j'ai une chemise cartonnée chez moi avec plein de messages de gens qui ont été complètement anonymes dans plein de villages, villes françaises, et qui se sont engagés pareil, et dont on ne parle pas. Et donc je me suis dit « Bon, ben, je suis en train de visiter l'Atlantide, en fait. Hein, » C'est-à-dire qu'on remonte à la surface une espèce de mémoire oubliée collective. Et donc, je me suis dit, bon, ben maintenant, on a parlé avec Philippe Robinet, qui dirige les éditions Calman de Lévy, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le bouquin avait bien marché, le précédent et tout. Et donc, j'ai dit, ben, en fait, ces chrétiens, ils ne se sont pas arrêtés en 1945. C'est-à-dire qu'en fait...
Ils ont participé à la reconstruction.
Ben, ils ont continué à participer. C'est-à-dire qu'ils ont... si vous voulez, il y a tout le travail de reconstruction de la France... et après de construction de l'Europe a été initié et les principaux artisans sont les chrétiens. Alors évidemment, ce ne sont pas les seuls. Il y avait un monsieur qui me disait « Ah oui, non, mais ce ne sont pas les seuls. » Évidemment que ce ne sont pas les seuls. C'est un angle...
Et surtout, il y avait De Gaulle. Donc, comment ils se sont positionnés par rapport à De Gaulle? Parce que c'était un positionnement
Alors justement, un peu compliqué. Oui, je vais y venir, mais juste pour vous dire que, en fait, Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de livre là-dessus. Il y a eu des livres sur l'histoire politique, évidemment. Jean-Marie Mayer, il a fait un gros travail là-dessus, sur l'histoire de la 4e République, sur le MRP, la démocratie chrétienne. Mais il n'y a pas de livre qui embrasse la période jusqu'à la guerre d'Algérie, qui fait qu'il y a une reconstruction à la fois matérielle, économique, dont les chrétiens sont les artisans, et aussi une reconstruction culturelle, spirituelle, morale. Et moi, je pense que, par exemple, j'ai été très impressionné par la figure que je connaissais assez peu de Konrad Adenauer, par exemple, qui, en Allemagne, réussit à remettre l'Allemagne debout, à faire la paix avec Israël, à remettre l'Allemagne dans le concert des nations et à faire la réconciliation franco-allemande, et ensuite à porter l'Europe sur les fonts baptismaux. Donc cinq ans après, la communauté de l'Europe du charbon et de l'acier, qui seront les prémices de l'Europe, a été initiée par trois chrétiens sur quatre.
Vous voulez citer Schumann, Adenauer et l'Italien de Gasperi.
Gasperi, voilà. Ouais. Donc Jean Monnet, évidemment, mais Jean Monnet n'était pas, enfin, à ma connaissance, quelqu'un d'engagé spirituellement. Mais alors, je pense que s'il n'y avait pas eu ces gens qui étaient animés en fait par une idée plus grande qu'eux, c'est-à-dire qui dépasse leur propre intérêt personnel, leur propre petit destin, il n'y aurait pas eu une reconstruction qui est encore une fois une reconstruction qui n'est pas seulement économique et matérielle, mais aussi une reconstruction politique, morale et spirituelle.
Alors avant d'entrer dans le détail de ces quelques personnalités, juste un mot avec vous, Emmanuel, vous confirmez que les chrétiens jouent un grand rôle dans la reconstruction ?
Le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'en effet, l'Europe a été faite par des chrétiens et l'Europe est incapable de reconnaître les racines chrétiennes. Voilà, ça, c'est un paradoxe.
Un commentaire, non ?
Moi, j'ai été quand même, esbobie de voir ça en travaillant sur ce livre. Le rôle de... Et puis, c'était pas des chrétiens tièdes, hein. C'est-à-dire Gasperi, Adenauer, Schumann, ce sont des chrétiens très engagés. Après, vous me parliez de De Gaulle.
Oui.
Alors, évidemment, donc, ces démocrates chrétiens, donc on connaît Tegen, Menton, tous ces grands résistants.
Moi, j'en ai découvert, je ne savais pas que Henri Bourdeau de Fontenay avait été le patron de l'ENA, par exemple.
Oui, le premier, c'est le premier directeur de l'ENA, c'est un grand résistant. C'était aussi un catholique, on peut dire, fervent. En même temps, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. C'était un homme qui était beaucoup plus iconoclaste et beaucoup plus singulier que ce qu'il pouvait donner à voir. Mais il a pétri, si on peut dire, l'origine de l'ENA, à la fois par les valeurs de la résistance, mais aussi par des idéaux chrétiens.
Donc De Gaulle savait qu'il devait compter sur eux aussi, et il a compté sur eux, quoi.
Alors De Gaulle, ce qui était intéressant, c'était que De Gaulle était un catholique, hérité de son père, mais il a toujours, et d'ailleurs c'est intéressant dans les débats actuels qu'on a sur la laïcité, c'est-à-dire que De Gaulle a toujours fait très très attention, a été très soucieux de ne pas mettre ses convictions en avant quand il était dans l'exercice de ses fonctions présidentielles. Mais ce qui n'empêchait pas, c'est parce que c'est pour ça qu'on a des débats un peu fous actuellement sur la laïcité, ça n'empêchait pas d'aller à la messe. Mais par exemple, quand il était à messe, il ne communiait pas quand il était en tant que président de la République. Ouais. Après, il y avait le côté privé. Mais ce qui est intéressant, c'est que De Gaulle est un catholique engagé, mais c'est lui, d'une certaine manière, qui va tuer la démocratie chrétienne en France, puisque le mouvement du MRP, il détestait le MRP,
C'était
étouffé.
Pas forcément à sa main, quoi. Lui voulait des choses à sa main. Hein.
Oui, voilà. Et puis en même temps, il c'est vrai que ces gens ont été associés à la 4e République. À partir de 58, il fallait créer une nouvelle République, un nouveau régime. Et donc voilà. Et puis ensuite, autre personnage que j'ai découvert en faisant ce livre, qui a un parcours très intéressant, qui est Georges Bidault. Et donc Bidault,
j'ai découvert aussi référent du plan Marshall en France. C'est-à-dire que c'est lui qui a porté le plan Marshall en France.
Georges Bidault, je l'ai découvert en fait en lisant Alias Caracalla de Daniel Cordier. C'est-à-dire que je pensais, moi, Georges Bidault, je pensais que c'était une espèce de ventre mou, centriste, pas très intéressant. En fait, c'est un personnage de roman. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit Alias Caracalla de Cordier, c'est le deuxième héros de ce livre. C'est-à-dire qu'il y a Jean Moulin et ensuite il y a Georges Bidault. Georges Bidault
il l'a remplacé d'ailleurs, je crois.
Après l'assassinat de Jean Moulin, il prend la suite donc à la tête du Conseil national de la Résistance. Il descend les Champs-Élysées à la droite de Gaulle qui, à mi-pente, le place à sa gauche. Et donc, et après, il devient un peu l'homme, le pilier de tous les gouvernements de la 4e République qui vont remettre la France sur les rails. Mais après, il disparaît de l'histoire. Et donc, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il disparaît même des manuels d'histoire. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus de Georges Bidault. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le mauvais choix. Alors après, chacun a ses cohérences. Hein. Il faut respecter aussi les choix. Il a fait le choix de l'Algérie française, et pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'il s'est très engagé. Et du coup, maintenant, il y a une espèce de... Enfin, on l'a un peu occulté de la mémoire collective, alors qu'il a joué un rôle essentiel dans l'après-guerre. En plus, c'était un personnage... J'ai retrouvé plein de documents... par l'INA, c'était un personnage incroyable. C'est-à-dire que, alors, il a publié des mémoires qui sont un tombereau d'amertume contre De Gaulle. Mais bon, il avait une espèce de...
Ce qui est bien, c'est que vous nous faites vivre tous ces personnages dans votre livre. Alors, on va avancer un tout petit peu, parce qu'il y en a d'autres dont je voudrais qu'on parle. Jérôme Cordelier, ce que vous appelez les forts en gueule que vous dépeignez. Alors, on connaît tous l'abbé Pierre, etc., mais il y en a d'autres. Hein, le curé Bruckberger, moi, je ne connaissais pas du tout. Le chanoine Kier. C'est des gens qui ont marqué aussi par leur force de caractère, leur volonté.
Là encore, chose qu'on oublie actuellement et dans les débats, c'était que dans l'après-guerre, il y avait des prêtres en soutane dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et qui non seulement donnaient de la voix, mais en plus étaient populaires. C'est-à-dire donc il y a l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il était député MRP en 1946, pas longtemps, hein, parce qu'il ne s'est pas trop fait en plus à la discipline de parti. Mais il y avait ce... Bruckberger n'était pas député, non. Il était... Mais je vais en parler après. Oui. Mais il y avait Chanoine Kier. Chanoine Kier, donc, qui a été maire de Dijon jusqu'à plus de 90 ans. Et alors lui qui était un personnage, hein, j'ai retrouvé des trucs dans les archives du Point. Alors il avait une soutane, il avait des godillots.
Parce que monsieur travaillait au Point, je l'ai pas dit au début.
Et on voit des portraits de lui. C'était un personnage, bon, un héros, hein, c'est-à-dire qu'il avait pendant la guerre, il était résistant. Il avait reçu une rafale de mitraillettes, donné pour mort. Après, arrêté par la Gestapo, il s'évade. Enfin voilà, bon, c'est comme la résistance de l'abbé Pierre. Moi, j'ai eu la chance de connaître l'abbé Pierre, de l'interviewer plein de fois, et donc derrière le cabotin médiatique de l'abbé Pierre, il y avait un grand résistant. Mais en fait, ces gens, donc, ils vont animer le débat politique et ensuite animer le débat social et s'engager socialement. Mais vous parliez de Bruckberger. Bruckberger, c'est un personnage de roman. C'est-à-dire que c'est un dominicain. C'est lui qui va présider la messe de libération de Paris du 25 août 1944, puisque le cardinal de Paris, Suard, est interdit...
De Gaulle ne voulait pas que ce soit le cardinal...
Voilà, et donc, j'ai rencontré plusieurs fois Odile de Vasselot, qui est une grande résistante française, et qui raconte toujours d'un air amusé qu'on avait placé un char des FFI devant l'archevêché pour empêcher Suard de sortir, pour pas qu'il préside la messe de Notre-Dame. Et donc, c'est Bruckberger qui était énorme résistant, dominicain, et en même temps, c'est vous dire l'ambiguïté de l'époque... qui était le confesseur de d'Arnand et Bassompierre, qui étaient des miliciens qui avaient du sang sur les mains.
Alors, je vais citer une phrase que vous donnez dans votre livre, c'est « La démocratie doit son existence au christianisme ». Et c'est Robert Schuman qui dit ça. Donc ça veut dire que, à votre sens, la démocratie post-européenne prend ses racines aussi dans cette foi chrétienne que
vous
défendez ?
C'est pas à mon sens, c'est au sens de Robert Schuman, mais je pense que il a pas tort. En fait, c'est la doctrine sociale de l'Église, si vous voulez. C'est-à-dire que tout c'est qui date du 19e siècle, et donc tous ces chemins ont irrigué la société française. C'est pour ça que j'ai fait un livre qui n'est pas uniquement sur la politique, l'histoire. C'est aussi l'irrigation de la société française.
Oui, parce qu'il y a aussi, alors j'ai posé la question, mais il y a Emmaüs, ATD Carmont, le Secours catholique, etc. Toutes ces associations naissent de ça.
Naissent de ça, ouais. Et donc c'est un très fort engagement social, et donc qui est... Et je considère... Enfin, ça continue encore aujourd'hui, hein, on va y venir peut-être. Mais c'est vrai que Robert Schuman a laissé un testament qui est très émouvant, dans lequel il dit ça, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est vrai que la démocratie, les racines chrétiennes de l'Europe, on l'oublie toujours, puisque de toute façon on est dans une société amnésique et du zapping, et donc en fait c'est un mouvement quand même qui est très important et qui est surtout aux fondations de notre histoire et qui continue d'irriguer, si on peut dire, notre humus social.
Oui, et puis humus aussi d'information, puisque vous êtes journaliste et vous l'expliquez à la fin de votre bouquin. Une grande partie de la presse est née de là aussi. Alors je cite quelques titres, hein, La Voix du Nord, Ouest-France, Le Parisien libéré, Témoignage chrétien, La Croix. tous ces journaux.
Le Monde, Hubert Boeuf-Méry,
bien sûr, son nez.
Voilà, on l'oublie un peu. Hubert Boeuf-Méry, il a reçu une éducation très forte des Dominicains.
Et pour conclure, aujourd'hui, ce terreau continue à...
Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a dans un soubassement politique, social, évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'engagent. Souvent, très souvent, les chrétiens sont en première ligne dès qu'il y a une crise sociale ou politique. On le voit actuellement avec les migrants, par exemple. Ce sont les chrétiens qui réparent d'une certaine manière la société. Pas que, évidemment. C'est évidemment qu'il y a eu, aussi... Jean-David l'avait bien montré dans son livre sur Madeleine Riffaud. Il y a eu aussi un engagement communiste fort au sortir de la guerre. Mais bon, moi, je me concentre sur mon sujet. Mais c'est vrai qu'il y a une irrigation quand même en certains engagements politiques. On retrouve cette force chrétienne. Enfin, je veux dire, Laurent Berger, il est issu de la JOC, Marine Tondelier et tout. À droite, on trouve des gens comme, Gérard Larcher, Retailleau, Bellamy, enfin, ces gens. David Lisnard, que je connais un petit peu, il est dans cette tradition. Laurent Wauquiez, enfin, vous voyez, c'est autour de Macron, vous avez eu Bayrou qui a été quand même compté.
Mais t'es pas David Lisnard autour de Macron parce qu'il va taper dessus.
Autour de. Enfin, pour le. Quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, il a été quand même porté de manière décisive par François Bayrou, qui est. Et hérité de cette tradition-là. Et puis, il y a aussi autour de lui Philippe Grandjean, qui est issu de la CFDT. Ce que je veux dire juste, c'est que ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne suis pas historien. J'ai fait des études d'histoire. Je suis journaliste et fier de l'être. Et donc, je trouve que j'essaie de faire quelque chose de vivant. C'est-à-dire une rencontre...
Complètement. C'est-à-dire qu'on est porté par votre écriture. Ouais. En plus, c'est des personnages
qu'on
a... Merci, Bernard. Pas romanesque, mais presque, enfin, par moment, on lit.
C'est-à-dire que j'essaie de faire la rencontre entre la grande histoire et les petites histoires. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de relayer les témoignages. Donc, j'ai la chance de connaître Jacqueline Fleury mariée.
Beaucoup de témoignages. Au début, d'ailleurs, vous parlez de la reconstruction personnelle en même temps que la reconstruction du pays et de l'Europe, parce que ça va de pair avec ce qu'on disait.
J'ai eu la chance de connaître l'abbé Pierre, Geneviève de Gaulle-Antonio, la dernière fille du maréchal Leclerc, que j'ai longuement interviewée pour le précédent livre et pour celui-ci. Anicette Sandier, qui est la petite fille de Marc Sandier, qui est aussi quelqu'un qui a été à l'origine de tous ces engagements. Donc voilà, j'essaye de porter ces voix-là.
Ils sont tous dans votre livre que je recommande chaleureusement, donc Jérôme Cordelier, Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit
Bernard.
La France et l'Europe chez Calman Lévy.
Et le stand est juste à la sortie.
Voilà,
pour une fois, je suis bien positionné, Emmanuel, tiens à vous le dire.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon ami Jérôme.
C'est pas du tout la même époque,
Non, mais on s'en fiche. Si la démocratie, on peut parler des racines chrétiennes de la démocratie, il serait très très difficile de parler des racines chrétiennes de la République. La République est précisément née d'un renversement de sacralité, de l'invention d'une sacralité laïque. Il suffit de penser au tableau de David, au serment du jeu de paume le 20 juin 1789. On est là dans un univers qui est à l'encontre, ou qui va à l'encontre de la sacralité monarchique du sacre de Reims. On invente une nouvelle sacralité à travers le serment à la romaine, main levée, au jeu de paume, lorsque les députés du tiers-état jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Et on peut parler de cette sacralité à travers le serment, à travers les fêtes révolutionnaires. C'est une nouvelle sacralité qui s'invente, qui est la sacralité de la nation. Et là, donc, au contraire de la démocratie, s'agissant de la République, on est dans un autre monde. Ouais. Il faut juste faire la différence, parce qu'on a souvent tendance à confondre démocratie et République. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ce qui ne veut pas dire que les chrétiens ne sont pas de fervents républicains.
Bien sûr.
Les deux ne sont pas incompatibles.
C'est une observation d'historien.
Oui. Jean-David.
Juste pour parler de Madeleine Riffaud, qui était effectivement dans la résistance communiste, et en fait, elle est parfaitement fan d'un monsieur qui était l'abbé Lavalard, qui était l'abbé de son village et qui est après devenu un des chefs de la résistance du nord de la France. Donc c'est vraiment perméable, et c'est ça le CNL en fait, donc c'est vraiment le CNR pardon, et c'est vraiment ça qui est important dans la résistance, c'est le fait que tout le monde était ensemble.
On va remonter.
Oui. Juste en conclusion, c'est vrai qu'en Corrèze il y a eu énormément d'engagement pendant la guerre, de prêtres religieux laïcs ici à Brive, tout autour de Brive, et voilà, il faut le dire. Et petit hommage à François David qui organise.
Oui, qui était patron du Centre Michelet pendant des années.
Voilà,
des années,
pendant, et qui a écrit de très beaux livres sur la résistance chrétienne en Corrèze.
Qui est le commissaire de la foire du livre pour ceux qui ne le connaissent pas. Emmanuel de Varesquiel, on va remonter un peu le temps.
Et je peux rebondir aussi sur ce qu'ont dit mes deux voisins. Ils m'ont fait furieux. Non, c'est pas grave. Ils m'ont fait furieusement penser à ce très beau mot d'Eugène Ionesco. Là où il y a de l'humour, il n'y a pas de camp de concentration. Et on a parfois envie de mettre un peu de légèreté sur ce qui se passe en ce moment, sur cet épouvantable conflit israélo-palestinien. Vous m'autorisez à citer un mot de Francis Blanche qui interprétait à sa façon inimitable les rapports entre Arabes et Israéliens. Il disait à peu près ceci, les Arabes du Caire sont antisémites et les Sémites sont anti-Caire. Ça fait du bien.
Ça fait du bien, oui, Francis Blanche. Bravo. Ça, c'est de l'humour avec un beau vocabulaire. Vous publiez, vous, Emmanuel de Varesquiel, Jeanne du Barry, chez Talendier. Jeanne du Barry, la dernière favorite de Louis XV. Et vous avez voulu réhabiliter, en quelque sorte, on peut le dire. Hein, cette...
J'aime pas le mot de réhabilitation s'agissant d'une biographie historique. Mais on n'est pas là pour réhabiliter. On est là pour essayer de comprendre les personnages sur lesquels on travaille, de les éclairer, de les renvoyer à leur contexte et de donner à comprendre, au fond, derrière le personnage, les époques qu'ils ont traversées. Enfin, les choix que je fais de mes personnages sont toujours ceux d'une meilleure compréhension des époques qu'ils ont traversées par rapport à d'autres. Je les utilise un peu comme on utiliserait une clé qui ouvrirait la bonne porte et qui donnerait à voir le bon paysage. Voilà.
Alors, pardonnez-moi, mais...
Ils sont là, mes choix de biographie.
Quand on lit le début de votre livre, vous expliquez bien qu'il y a eu pléthore de bouquins, de films, dont un dernier, etc., qui ont raconté que des bêtises. Quoi. Enfin, beaucoup de bêtises.
Pas des bêtises, mais...
Qui ont transformé un peu l'histoire.
Les personnages, certains personnages de l'histoire sont parfois, et c'est ceux-là qui m'intéressent, je pense à Talleyrand, à Fouché, mais à Jeanne du Barry en particulier, ont été parfois enfermés dans une sorte de légende. Vous savez, la mémoire, c'est pas l'histoire. La mémoire, c'est la réinvention. La mémoire, c'est de l'amour ou de la haine. L'histoire, c'est de l'analyse et de l'esprit critique. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, certains de ces personnages ont été enfermés dans une légende noire s'agissant de Jeanne du Barry, et pour des raisons politiques très précises, qui tiennent à des contextes, ont été réduits, s'agissant de Jeanne, à son corps et à son insignifiance. Et en l'attaquant, à l'époque où elle était la maîtresse de Louis XV, en attaquant son corps, en la réduisant à son corps, on attaque le corps du roi et on travaille à la désacralisation. C'est pour ça qu'elle m'a intéressé, parce qu'elle nous conduit tout droit à la Révolution française. Moi, je suis un historien du XIXe siècle et de la Révolution, assez peu un historien du siècle des Lumières, mais tout ça est lié. Et donc j'ai choisi Jeanne du Barry un peu comme un fil d'Ariane, parce que c'est un personnage qui me donne à comprendre les contradictions du siècle des Lumières. Elle est en miroir, par définition, une femme des Lumières, avec ses contradictions entre le libertinage d'un côté, la morale de l'autre, entre la naissance de l'intimité à laquelle elle a participé, le secret, et de l'autre, la transparence. On va faire la révolution en 1789 au nom de la transparence. Elle est très symptomatique de cette montée en puissance de ce que Jürgen Habermas appelle l'espace public du politique. C'est à travers cette littérature clandestine qui va s'attaquer à elle et attaquer ses fonctions de maîtresse royale. Voilà. Pour toutes ces raisons, et aussi parce que c'est un magnifique personnage de femme, et que si on veut comprendre le XVIIIe siècle, qui par excellence est un siècle féminin, il faut écrire la biographie d'une femme.
Oui, mais vous aviez envie d'écrire sur une femme, parce que vous avez écrit sur beaucoup d'hommes auparavant, et ça s'est imposé à vous.
J'ai consacré un livre à Marie-Antoinette, mais en effet, j'ai plus travaillé sur des hommes. C'est plus difficile d'ailleurs. Comment écrire sur une femme du XVIIIe siècle quand on vit au XXIe, qu'on est un homme et qu'on n'a jamais été à la cour de Versailles?
Oui, ça c'est le rôle aussi de l'historien de travailler sur...
C'est le pari biographique.
Oui, c'est le pari biographique. Vous écrivez qu'elle était une grande politique. Alors quel rôle elle a vraiment joué à son époque, politiquement parlant? Parce que comme vous dites, on a l'image d'elle un peu de facilité, quoi, de légèreté.
Oui, on a tous en mémoire cette merveilleuse phrase de Talleyrand. Qui n'a pas connu les années qui ont précédé la Révolution française ne sait pas ce que c'est que le plaisir de vivre, et non pas la douceur. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une forme de liberté, de transgression des codes dans le plaisir qui a été son cas. Vous m'entendez là où ça marche? Oui, pas si, très si, bien si. Vos affaires
si, je crois que ça
marche mieux là, hein. Et donc, elle n'est pas seulement la femme du plaisir de vivre. Elle arrive à la cour en 1768, 8 ans avant la mort de Louis XV, qui va mourir en 1774, dans une période très particulière, en pleine crise de l'absolutisme monarchique. Le roi est confronté à l'opposition systématique depuis des dizaines d'années de ses parlements. N'oubliez pas que ce sont les parlements qui vont faire la Révolution française. Ce sont les parlements qui parlent les premiers de convoquer les États généraux sous le règne de Louis XVI. Et dans un certain sens, Jeanne du Barry, qui a probablement été la maîtresse préférée de Louis XV et qui l'a réconfortée par rapport à ses hésitations et aussi à ses dépressions, elle arrive alors qu'il vient de perdre son fils, le dauphin, que sa femme meurt en 1768, et elle va certainement l'encourager et le conforter dans les très très grandes mesures qu'il va prendre à la fin de son règne, qui sont probablement les mesures politiques les plus spectaculaires, c'est-à-dire le renvoi des parlements et l'abolition des charges héréditaires parlementaires, sur lesquelles, réformes sur lesquelles son petit-fils Louis XVI est revenu pour son plus grand malheur, car immédiatement il s'est retrouvé face à ses parlements qui, par leur opposition systématique aux tentatives de réforme monarchique et notamment de réforme fiscale, vont conduire Louis XVI via ses déficits tout droit à la Révolution française.
Donc, en réalité, elle n'avait pas de charge officielle, hein, c'est ce qu'on comprend,
non.
Mais elle avait un grand pouvoir d'influence.
Les femmes avaient, juridiquement, les femmes n'existent pas au XVIIIe. Par contre, elles existent par le pouvoir d'influence qu'elles exercent. Elles existent beaucoup plus qu'au XIXe.
Même si vous dites qu'elle était quasiment ministre de la culture, quelque part. Parce qu'elle était très, très attachée aux arts. Elle a beaucoup aidé à développer certaines...
Avant d'arriver à la cour, avec le scandale que l'on sait, étant donné ses origines, elle est la fille d'une lingère. Et au fond, toute sa vie, elle va courir derrière son illégitimité. Son père, que j'ai retrouvé, on lui a prêté pour père un moine défroqué, tant qu'à faire, qu'on a appelé le frère Ange Picpus. Et celui-là a l'air de sortir tout droit d'un roman érotique du XVIIIe. Hein. C'est le frère Ange, c'est Don Bougre dans le Portier des Chartreux, qui était probablement le livre le plus licencieux qui existait au XVIIIe. Donc elle a couru toute sa vie après son illégitimité. Et au fond, elle se reconstruit psychologiquement en essayant sans cesse de se redonner une dignité. L'illégitimité au XVIIIe, c'est une tare. On parle de bâtardise, c'est une faute originelle. Prenez n'importe quel personnage de roman du XVIIIe.
En fait, son père avait couché avec la lingère de la maison, quoi. En gros,
absolument. Hein. Enfin, ça, ouais. Plus que coucher, c'était oui. Il avait l'une des personnes de sa maison pour maîtresse. Et comme il était marié, il n'a jamais reconnu cette petite Jeanne Bécu qui devient la comtesse du Barry et qui s'est réinventée, qui a changé de nom sans cesse, qui a porté des masques précisément à cause de ça.
Elle a beaucoup inventé, caché.
L'illégitimité est au cœur de la compréhension qu'on peut avoir d'elle, de sa reconstruction et de cette espèce de légitimité qu'elle a essayé de se donner jusqu'à la cour, alors qu'elle a été accueillie avec moult sarcasme par la cour, parce qu'on ne supportait pas. Elle percute littéralement toute l'organisation de cour, les hiérarchies, les prébendes et les privilèges. Elle est un scandale.
D'où le fait qu'elle est très décriée à l'époque déjà, hein, on lui tape dessus. Hein.
Et au sein de ce scandale, ouais. Elle arrive à la cour auprès de Louis XV à un moment décisif, qui sont ces réformes-là, et également à un moment décisif, comme vous l'avez dit, sur le plan esthétique. Elle a vécu dans un milieu parisien, de la haute finance parisienne, qui est un milieu de mécènes, de grands collectionneurs, et elle a été elle-même une grande collectionneuse, probablement l'une des seules femmes collectionneuses de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et ses collections, peintures, sculptures, arts décoratifs, ce que l'on retrouve dans les inventaires de sa propriété de Louvciennes que le roi lui donne à vie au début de la Révolution, est absolument ébouriffant. Ouais. C'est probablement la plus grande collection privée qui ait jamais existé, malheureusement dispersée après sa mort, à partir de 1794, et elle est d'une très très grande modernité. Elle participe à ces mutations de goût et d'esthétique des années 1760-1770, c'est-à-dire le passage de ce qu'on a appelé le goût rocaille contemporain de Madame de Pompadour à ce qu'on appelait à l'époque le goût grec, qui deviendra le néoclassicisme français. Elle encourage les plus grands architectes néoclassiques. Elle fait construire par Ledoux son petit pavillon de musique de Louvciennes, qui est probablement la construction la plus parfaite dans ce style-là. C'est grâce à elle que les Salines d'Arc et de Senans construits par Ledoux ouais. vont exister. C'est grâce à elle que l'Odéon existe à Paris. Elle encourage ces architectes de l'Odéon qui sont Père et Devailly. Elle encourage des peintres et elle opère une véritable révolution dans la peinture et notamment dans l'histoire de la représentation des femmes. J'ai mis en couverture le premier tableau de Vigée-Levrun qui date de 1781 d'Elisabeth Vigée-Levrun qui était une grande amie à elle. Elle était l'amie de tous les artistes hein, et qui pour la première fois représente la femme au naturel, c'est-à-dire en chemise. En fait, c'est un déshabillé en chapeau de paille à plumes et non pas comme on le faisait jusqu'alors de façon historicisée, c'est-à-dire en nymphe, en muse, en égérie. Pour la première fois, et pour moi ce tableau est une révolution, comme les Demoiselles d'Avignon de 1907, peint par Picasso, sont une révolution dans la peinture contemporaine.
On vous écouterait pendant des heures, Emmanuel Varasquet, mais vous sous-titrez votre livre « Une ambition au féminin ». On peut se demander comment une femme née bâtarde d'un financier donc, et d'une lingère a pu arriver jusqu'à la cour. C'est-à-dire qu'elle avait cette volonté, c'est un parcours... comment s'est dessiné ce parcours ?
Parce qu'elle a l'intelligence des êtres et des choses, parce qu'elle est terriblement ambitieuse, parce qu'elle rencontre un personnage incroyablement fantasque qui est Jean du Barry, qui deviendra son beau-frère, dont Ligne dit qu'il était le coquin le plus spirituel de Paris, qui fait des affaires, qui fait marcher les femmes, pour reprendre une phrase de Talleyrand, et qui va littéralement nouer une association avec elle, dont le but est d'arriver à la cour. Alors, ce n'est pas par Jean du Barry qu'elle va parvenir à la cour, probablement par un autre de ses amis, qui est Jean-Benjamin de Laborde, qui est d'ailleurs l'un des personnages les mieux joués dans le film de Mai Wen, qui va probablement la présenter, qui est le premier valet de chambre de Louis XV, et qui va probablement la présenter au roi. Et puis, et voilà, c'est moi, ce qui me passionne, hein. c'est les personnages que je choisis, c'est leur réinvention, leur caractère, leur part de secret. Et il n'y a pas plus secret que cette femme, que cette Jeanne du Barry.
Elle a joué elle-même, hein, du secret.
Bien sûr.
Bien sûr. Ouais. Merci Emmanuel de Varesquiel. Donc Jeanne du Barry, que je vous recommande également chez Talendier, et puis Jérôme Cordelier, Après la nuit, ces chrétiens qui reconstruisent la France et l'Europe. Et Jean-David Morvan et Victor Maté, Adieu Birkenau chez Albin Michel. Merci messieurs, merci à tous les trois. Donc ils sont tous sur leur stand et vous pouvez aller faire dédicacer leur livre et leur poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Merci.